en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Frédéric Vitoux, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Vous êtes écrivain, critique littéraire et cinématographique, membre de l'Académie française depuis 2001. Vous aimez beaucoup les livres, évidemment, et vous aimez aussi l'art. Vous venez nous en parler aujourd'hui. Vous êtes amateur d'art depuis combien de temps? Comment vous est venue cette passion?
À l'origine, je crois que je la dois à mon père, qui tout enfant, moi enfant, m'emmenait au Louvre. Très souvent, à l'époque, il n'y avait personne au Louvre. On rentrait comme ça. Et souvent, le dimanche, il me dit, allez, viens, viens au Louvre. Mais bon, pas longtemps, allez. Mais très souvent, alors, il m'emmenait. Alors, je me souviens, les premières choses qui m'avaient impressionné, c'était les Saint-Jean-Baptiste percés de flèches. À ces images, étaient très forts dans mon imaginaire. Naturellement, les grandes toiles de Delacroix ou de Géricault étaient pour moi très, très fortes. Et je restais 10 minutes, un quart d'heure. Après, il ne voulait pas m'ennuyer. Et lui, ça, il partait voir les Ingres, des trucs comme ça. Et puis, j'y ai pris l'habitude d'y aller assez souvent. Oui, puis après, ça s'est un peu passé, cette passion. Et puis, à l'âge de 20 ans, j'ai recommencé à aimer beaucoup la peinture. Et j'ai découvert un peintre qui, pour moi, c'était au moment où j'étais un fou de cinéma et où j'adorais, par exemple, les comédies musicales de Fred Astaire, Ginger Rogers, tout ce qui échappe à la pesanteur, qui étaient ces féeries absolument. Et j'ai trouvé un peintre qui m'a mis, au sens stendhalien du terme, au comble du bonheur. C'était Tiepolo, Gian Battista Tiepolo. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable, cette virtuosité, cette sensualité heureuse, ces couleurs, ces plafonds peints à Venise, à Würzburg, partout. J'étais dans le... Partout, il y avait des Tiepolo. C'était un des peintres, et ça reste un des peintres, pas forcément le plus grand. Bien sûr, peut-être Tiepolo, c'est pas Vermeer, c'est pas Rembrandt, c'est pas Michel-Ange, mais qui est un des peintres qui me met totalement heureux.
Vous avez voyagé pour voir des œuvres
de
lui?
Bien sûr, bien sûr. J'ai été à Würzburg pour voir les plafonds peints sublimes à la résidence de Würzburg. On me disait à Udine, il y a un très beau plafond peint de Tiepolo, j'y allais. Ah oui, j'ai été partout. À Édimbourg, il y avait un magnifique tableau. Je crois que c'était, je me souviens bien, c'était Moïse sauvé des eaux par la fille du pharaon, qui est sublime de beauté, avec une robe de couleur, un costume vénitien. Je me suis fait ouvrir au Palazzo Labbia, qu'on ne voit jamais, qui est le siège de la RAI à Venise, pour voir les fresques de Cléopâtre et d'Antoine de Tiepolo. Ah, c'est incroyable.
Tout au long de votre vie, qu'est-ce qui a retenu le plus votre regard, donc en dehors de Tiepolo? Vous êtes plutôt amateur de moderne, de contemporain, de pré-raphaélite?
Je suis assez éclectique. Je peux me permettre, n'étant pas un spécialiste, d'aimer des choses très différentes. En ce moment, je me passionne, mais parce que c'est une énigme qui ne cesse de me hanter depuis des décennies, sur Manet. Parce que les grands tableaux de Manet me demeurent toujours mystérieux. Je dis, qu'est-ce qui se joue là que je ne comprends pas? Et donc, tout ce que j'avais lu sur Manet, par exemple, aussi bien depuis Zola, Baudelaire, Mallarmé, Valéry, Malraux, Bataille, c'est un des peintres qui a le plus inspiré d'écrivains, ne me satisfaisait que partiellement. Et je voulais essayer de voir, non pas que j'étais meilleur que tous ces immenses écrivains, c'est pas ça du tout, mais je voulais un peu aller voir de plus près. Ce qui m'intéresse en général dans la peinture, c'est au fond, j'apprécie modérément l'art totalement abstrait. J'aime bien les tensions entre le formalisme d'un côté et la représentation de l'autre. Pour donner un exemple, Nicolas de Staël, par exemple, m'intéresse beaucoup parce que Nicolas de Staël n'est pas un abstrait, n'est pas un figuratif, tantôt l'un, tantôt l'autre, mais il joue sur une tension entre la forme, la jouissance de la forme d'un côté et la représentation de l'autre. C'est vraiment le peintre moderne qui est le plus dans cette tension permanente. Et je comprends qu'il était malheureux. Il y avait ce livre qui vient de paraître, qui s'appelle « Les fulgurances » de Nicolas de Staël, de Karine Muller, je crois, qui montre le malheur absolu qui est tombé sur de Staël, sauf à la fin de sa vie, quand il a eu enfin du succès. Et cette tension venait d'une sorte de, justement, d'incompréhension des gens qui le tiraient dans une direction, qui le tiraient dans l'autre, et il était entre les deux, donc finalement très seul dans cette solitude absolue. Dans un autre ordre d'idées, Manet était aussi probablement le peintre qui, de son vivant, a été le plus attaqué, décrié, parce qu'il était incompréhensible. Parce que, à l'évidence, Manet terminait une grande tradition de la peinture qui passait par Titien, par Velázquez, par Goya, par Franz Hals, et qu'il achevait. Et d'un autre côté, ces techniques picturales pouvaient laisser annoncer l'impressionnisme. Il a même fait des tableaux un peu à la manière impressionniste. Donc il y avait ce jeu entre la tradition et le modernisme, entre la forme et la signification. Et tout ça m'intéresse beaucoup. Chez Tiepolo, c'est pareil, parce qu'à la fois, il y a une sensualité époustouflante des femmes, des déesses, des vierges, qui sont les femmes les plus sensuelles au monde chez Tiepolo. Et en même temps, une sorte de... Pas de baroque, c'est le mot qui ne convient pas, mais de tourbillon, de jeu formel, de sensualité, de vitesse, qui fait qu'on est pris dans une sorte d'abstraction lumineuse et tourbillonnante. Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire, et c'est ça qui me rend heureux.
Quand vous prenez la plume en tant qu'écrivain pour écrire sur la peinture, sur un artiste, finalement, est-ce que vous ressentez comme un devoir de mission ?
Écoutez, je n'ai, à ce jour, jamais été un critique pictural. Je ne m'en sentais pas les capacités. J'ai été un critique cinématographique, mais c'est un peu plus facile parce que le cinéma s'apparente aussi à l'art du récit. Donc, on peut s'appuyer sur des... Mais en même temps, c'est aussi un art de la forme. Donc, je n'ai pas de mission picturale, n'étant pas un critique pictural professionnel. Mais Manet m'intéressait. Alors, Manet m'intéressait, je dirais presque sur un plan littéraire, en ce sens que bien sûr, il y a le Manet, avec la technique de Manet, les aplats de couleurs, la luminosité, les tons clairs, tout ce qu'il a, par certains côtés, révolutionné. Mais ce qui m'intéresse chez Manet, dans les grandes toiles de Manet, comme le déjeuner dans l'atelier, le déjeuner sur l'herbe, Olympia, le balcon, le bar aux Folies Bergères, enfin, toutes les grandes toiles de Manet. Et c'est presque le romancier en moi qui était intéressé. Qu'est-ce qui se passe dans ces tableaux de si mystérieux ?
Vous cherchez l'histoire, au fond.
Ouais. Non, c'est-à-dire qu'il y a un climat. C'est-à-dire que personne dans ces tableaux ne parle à personne. Il n'y a aucun échange. Alors, il y a la théorique célèbre de Malraux, par exemple, qui, quand il voit l'Olympia de Manet, dit « Cette femme ne signifie rien. Elle a l'air complètement inerte. Elle regarde le spectateur. Il y a le chat à côté d'elle, la femme qui lui apporte des fleurs, la femme noire. » Donc, comme elle est insignifiante au sens strict, Manet se fiche totalement de son sujet, de son histoire. C'est de la peinture pure, c'est du pur formalisme, toujours ce jeu du formalisme et de la représentation. Donc, Manet est le premier des grands modernes, parce que c'est la peinture pure, c'est des taches roses, c'est des taches vertes, c'est des taches bleues, et peu importe le sens, Manet a l'air de se moquer du sens. Moi, je ne crois pas du tout. Je crois que chez Manet, il y a un homme totalement coincé, avec des angoisses de la mort, une incapacité à témoigner d'une tendresse, d'une affection, ce qui est sa vie d'ailleurs, et qu'il y a, on dirait aujourd'hui dans les lieux communs de la moderne, l'incompréhensibilité, vous savez, l'incommunicabilité des gens, il y a une sorte de tragique de la mort qui se cache et des gens qui ne peuvent pas communiquer entre eux. Et ça, c'est un sentiment que je trouve très moderne, beaucoup plus moderne que la soi-disant peinture pour la peinture, théorie développée avec et combien de talent et de brillant par Malraux, par Georges Bataille, etc.
Et l'art contemporain, donc l'art plus conceptuel d'aujourd'hui, un petit peu à cheval sur l'industrie, vous en pensez quoi ?
Écoutez, je ne suis pas assez connaisseur pour en penser grand-chose. Je ne suis pas très souvent au rendez-vous de cette peinture, des installations, ça m'intéresse modérément. Des artistes qui m'intéressent, c'est vrai que Kiefer m'intéresse.
Vous allez à la FIAC ?
J'y étais, mais pas très souvent. J'avoue que le marché aujourd'hui de l'art, avec 3-4 grands artistes, comme ça, avec le rapport de l'argent, ne m'intéresse pas. Moi, parmi les derniers grands peintres qui m'intéressent beaucoup, je citerai Robérolle, qui est mort, hein, mais qui est un peintre qui m'intéresse beaucoup. Parce que là aussi, il y a une violence, une émotion. Il y a quelques peintres géométriques abstraits qui peuvent m'intéresser. Mais en même temps, j'ai l'impression que l'essentiel a été joué avec Mondrian, avec Albert, et qu'aujourd'hui, brillamment, on reprend cela, mais que ça ne me paraît plus toujours une peinture d'une actualité ou d'une urgence brûlante. Mais il y a des très grands peintres qui m'intéressent beaucoup, bien sûr, par leur recherche. Non, moi, je suis peut-être, je veux bien accepter l'épithète infamante de passéiste.
Où flânez-vous, à Paris ou en province, pour apprécier l'art, savourer de l'art ?
Vous savez, comme tout le monde, il y a deux lieux essentiels, les églises et les musées. Donc, en plus, j'ai une femme qui est une fanatique des musées. Et quand j'ai parfois l'indolence de dire « est-ce qu'il faut y aller ?», elle me traîne dans tous les musées. Alors, non seulement les musées d'art, mais elle me traîne dans tous les musées les plus extravagants. Elle m'emmène, on est à Montreux, en Suisse. On va voir le musée du dé à coudre à Montreux. Enfin,
c'est
quand on
nouvelle.
Est à Lausanne, bien sûr, j'étais très impressionné à Lausanne par le musée d'art brut. Là, on est entre la pathologie et l'art, hein, mais c'est souvent d'ailleurs un va-et-vient fécond et troublant. Mais ce musée de l'art brut à Lausanne m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. J'étais très lié, par exemple, il y avait un peintre avec qui j'étais très lié d'amitié. On a beaucoup correspondu, il voulait même à un moment donné que je sois son secrétaire, c'était Jean Dubuffet. Donc j'ai été très proche de Dubuffet, qui était un des hommes les plus diaboliquement intelligents que j'ai connus. Incroyable, une intelligence, mais incroyable. Et donc la peinture de Dubuffet, que j'avais connue bien, m'a marqué, voyez, dans la peinture moderne. Je ne sais pas si c'est la peinture contemporaine, mais la peinture moderne.
Moderne. Au sein de l'Académie française, vous êtes entouré de quelques personnalités qui travaillent dans le monde de l'art, dont Jean Clerc. Est-ce que vous avez l'occasion de parler d'art avec eux, de discuter? Peut-être vous donne-t-il des nouveaux horizons?
Oui, beaucoup. Jean Clerc est un homme que j'admire énormément, qui est un ami que j'admire beaucoup. J'ai un peu contribué à l'encourager à venir, nous rejoindre d'ailleurs. On est élu par une majorité d'académiciens et personne n'est plus électeur que d'autres, mais... Je crois avoir un peu contribué à le convaincre de nous rejoindre et j'en suis très, très heureux. C'est vrai que Jean-Clair est un ami. La personne qui était une amie commune à Jean-Clair et à moi, c'était Françoise Cachin, qui habitait comme moi l'île Saint-Louis, qui était une amie de très, très, très longue date et qui reste, depuis sa mort, mais qui reste quand même le meilleur connaisseur de Manet, qui est vraiment tout ce qui a été fait sur Manet d'important. Et ça a été fait par elle dans sa grande exposition de 1983 pour le centenaire de la mort de Manet au Musée d'Orsay, qui était une exposition fondatrice et fondamentale pour la connaissance scientifique et rigoureuse de Manet. Donc c'est vrai qu'avec Pierre Rosenberg, mais attendez, très timidement, parce que devant des autorités comme Pierre Rosenberg au Musée du Louvre, moi je suis petit garçon, quand je l'écoute respectueusement nous parler de Poussin ou de peintres comme ça, il y a plus de complicité peut-être avec Gérard Régnier et Jean Clerc. Mais oui, c'est une chance pour l'Académie qu'elle ouvre son recrutement des personnalités de valeur qui ont un regard
Est-ce que vous êtes aussi fou de Venise que M. Rosenberg?
Je ne me permettrai pas de faire une comparaison, mais je suis vraiment un fou de Venise. Oui, Pierre a la chance d'avoir en plus des attaches géographiques à Venise et familiales. Pour ma part, oui, il n'y a pas d'année où je passe une ou deux fois à Venise ou... des amis qui mettent un appartement à ma disposition très généreusement. J'ai écrit plusieurs livres sur Venise, un art de vivre à Venise, plusieurs romans consacrés à Venise. Oui, oui, pour moi, Venise, c'est une seconde patrie.
Alors, merci beaucoup, Frédéric Vitoux, d'être venu nous parler de ce monde de l'art que vous appréciez, nous donner envie d'en connaître un peu plus. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.